Vous savez, c'était pas tellement glorieux hein, d'avoir fait ce qu'on a fait. Heureusement qu'on a été obligé de le faire, parce qu'on aurait été volontaire, ça aurait été misérable de faire ça. On y a été parce qu'on était obligé d'y aller. Hein.
Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été, dans un pays de soleil outre-mer que certains désiraient conserver. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle à laquelle on m'a emmené pour m'obliger à taper sur des frères qu'au contraire j'aurais préféré aider. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle pour laquelle on m'a forcé à incendier un douar, porte de fer, à tuer femmes et gosses apeurés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où l'on voulait me fusiller, car je refusais d'être tortionnaire au nom du pays de la liberté. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où j'étais du mauvais côté, du côté des gros marchands de misère, pas du bon côté des opprimés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, vous comprendrez pourquoi j'ai déserté.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est la troisième d'une série de trois consacrée à Jean-Baptiste Prade. Jean-Baptiste Prade fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1955 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Après un court extrait de propos de Jean-Baptiste Prade, vous venez d'entendre la chanson « Celle que je n'aurais pas voulu faire » de Claude Vinci pour les paroles, Jean-Claude Petit pour la musique, dans l'interprétation bien sûr de Claude Vinci. À la différence de Claude Vinci, qui a lui réellement déserté comme il le raconte, Jean-Baptiste Prade a fait le choix de suivre le sort des jeunes gens de son âge appelés à aller combattre en Algérie. Il est né en novembre 1938. Il a été enrôlé en janvier 59 et après 4 mois à Annecy au 27e BCA, il fut envoyé en Algérie où il est intégré en Grande Kabylie dans un poste isolé avec une section d'une vingtaine d'hommes où l'activité principale était de tendre des embuscades nocturnes. Nous le retrouvons dans cette troisième émission où nous évoquerons plus particulièrement la fin de ses 28 mois de service et le retour en métropole, en revenant aussi sur quelques épisodes pénibles de son vécu et sur ses réflexions actuelles sur ce passé. Bonne écoute.
Et psychologiquement, vous teniez le coup, vous n'avez jamais craqué, vous comptiez les jours en la quille.
Alors la quille, ça c'était le grand rappel, hein, tous les jours. Hein. Tous les jours, on mettait le calendrier à jour. Hein. J'avais commencé à peu près à 150, hein, et puis 149, 148, 147, et jusqu'à ce que on commence à y croire et avoir un grand ouf le jour où la classe avant vous s'en va. Vous dites, le prochain, c'est moi. Alors là, vous respirez. Hein. Avril, donc, j'ai été libéré le 21 avril, donc février, à partir de janvier. À partir de janvier, j'ai commencé à bien respirer. Et donc j'ai eu une libération un peu spéciale. Hein. J'ai été libéré le 21. J'étais sur le bateau la nuit du 21 au 22 mars 1961, la nuit du putsch. On a appris le putsch, on était sur le ville d'Alger. Dans le bateau, on était à peu près à la hauteur des Baléares. Donc on captait la radio là, sur le bateau, hein, et on a appris le putsch. Donc ça devait être vers les minuit, hein, on a appris ça. Et quand on est arrivé, quand on a débarqué à Marseille, on a vu un gradé, hein, c'était un capitaine ou un lieutenant, qui nous a dit « traînez pas les enfants, traînez pas, rentrez vite chez vous ». Mais on n'avait pas fait l'analyse de tout ce qui se passait. Hein.
Et votre départ, monté dans le bateau et tout, ça s'est bien passé?
Aucun
pas
problème,
d'incident, trop... ni de la population, vous n'êtes pas fait huer ou...
Jamais. Non. Et puis, ils ne pouvaient pas. Non, on était... Il y avait autant de militaires que de civils, hein.
Et dans le train entre Marseille et Lyon, Saint-Étienne, pas non plus de... Pas de manifestation?
Non. Non, entre Marseille et Lyon, rien. On dit au revoir aux copains. Et puis après, je prends le train qui me mène à Saint-Étienne, donc Perrache-Château-Creux. Puis en arrivant à la gare, il y avait mon épouse, mon futur épouse qui m'attendait, avec mon beau-père. Je me rappelle, il a pris mon sac, il l'a balancé contre le mur. Et je lui ai dit, faites attention, dedans, il y a un appareil photo et mon transistor. Et puis il m'a pris dans ses bras, il m'a mordu une oreille, alors ça je m'en souviens. Et d'ailleurs il m'avait fait mal, hein. Il m'avait mordu une oreille. Je le raconte souvent ça. Et puis voilà quoi, après la vie a suivi son cours.
Et le retour, bon, finalement vous étiez en relation épistolaire permanente avec votre futur épouse.
On s'écrivait. D'ailleurs, les lettres, je regrette, moi, de ne pas avoir gardé les courriers. Alors, on ne les a pas gardés, on les a détruits.
Pourquoi? Mais,
parce qu'il y avait des choses, il y avait quelques paroles de tendresse, et que bon, c'est un peu par pudeur. Hein. C'est un peu par pudeur. Et donc, mais je ne lui parlais pas trop. Non. Il n'y a qu'un moment où elle s'en est un peu rendue compte. C'est qu'elle n'a pas eu de courrier pendant 3 semaines, pendant l'opération jumelle, une quinzaine de jours. Parce qu'on ne rentrait pas, on risquait pas. Moi, je n'étais pas le mec à écrire sur le terrain. Hein. On ne rentrait pas, donc je n'ai pas écrit pendant 15 jours. Quoi. Elle s'est demandé ce qui se passait. Et puis voilà, quoi. Ça s'est passé comme ça. Quoi. Mais au retour, moi, je me rappelle, j'ai pas fait de crise, quoi, mais j'en voulais à la France entière, hein, de ne pas avoir de ne pas s'être organisé pour arrêter ça. Hein.
Dans les Djebel de mes 20 ans, on n'était pas vraiment sauvages. Quand on faisait griller des gens, c'était pour prendre l'avantage, on les bouffait pas pour autant. Hormis le viol et le pillage, par respect pour nos adjudants, on restait toujours plutôt sage. On n'était pas vraiment sauvage dans les Djebel de mes 20 ans. Avec la victoire en chantant, qui jouait les gardes-barrières, j'ai des copains dans la carrière qui sont entrés les pieds devant. Dans ces montagnes de malheur, qu'étions-nous foutre venus faire? On y défendait des valeurs humaines et pétrolifères, on prospectait le champ d'honneur. Pacification n'est pas guerre, en ce temps-là le déserteur n'avait pas cours dans les chaumières. Qu'étions-nous foutre venus faire dans ces montagnes de malheur? Avec la victoire en renfort, dans les transistors des familles, leur répétant, point de la quille, que nous étions bien les plus forts. Depuis je suis rentré chez moi, à quoi bon remuer les cendres? Pourtant il me semble parfois que j'ai des comptes à me rendre, je ne sais pas très bien pourquoi. J'ai des amis, ma femme est tendre, et j'ai retrouvé bien des joies. Y a-t-il quelque chose à comprendre, à quoi bon remuer les cendres, depuis je suis rentré chez moi. La victoire au fond de mon sac, et mon sac rendu aux gendarmes, j'étais content, adieu aux armes, et j'ai des souvenirs en vrac.
Moi j'en ai...
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Voilà, s'organiser pour arrêter ça.
Il aurait fallu s'organiser bien plus tôt. Et puis après, moi j'en ai surtout voulu. D'ailleurs, quand je, à cette époque-là, c'était la SFIO. Hein, ben moi je dis les socialistes. Hein, peut-être c'est pas les mêmes que maintenant quand même. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que c'est toujours des va-t-en-guerre. Et donc, à cette époque-là, moi j'en ai voulu à Guy Mollet comme pas possible. Parce que ça tient à peu de choses, hein, la continuation de la guerre d'Algérie. Au Parti Socialiste, si Guy Mollet prend pas le pouvoir à l'intérieur du parti, si c'est Mendès France qui prend ça, ça change tout. Moi, à mon avis, ça change tout. Ça aurait pas duré aussi longtemps, et De Gaulle aurait peut-être pas eu besoin de revenir. Parce que peut-être que seulement Guy Mollet, quand il est allé en Algérie, dans sa première visite, il s'est fait prendre en otage par les politiques d'Alger, hein.
Oui. Ça, c'est... Moi, je penserais volontiers que Guy Mollet, c'était une marionnette des puissances d'argent, des lobbies coloniaux,
oui.
Et des lobbies français qui profitaient.
Oui, mais quand même, en France, Guy Mollet, au Parti Socialiste, il était quand même tiré par des jeunes qui voulaient arrêter ça aussi. Il y en avait, hein, mais il n'y en avait pas assez. Mais il y en avait. Moi, vous savez, moi, j'ai connu une multitude de chrétiens de gauche qui ont milité pour essayer d'arrêter cette guerre. Et des gens de gauche, plein. Il y en avait plein, des gens de gauche. Moi, je me rappelle du PSU qui naissait. Hein, je me rappelle du MLP, Mouvement de Libération Populaire. Je me rappelle du MLO, Mouvement de Libération Ouvrière. Ben, c'était tous des militants qui étaient pour l'Algérie algérienne. Hein, Il y en avait plein, il y en a même qui ont aidé ce que moi personnellement j'approuverais pas, et que bon, maintenant c'est fait, qui ont aidé le FLN, il y en a plein qui ont aidé le FLN. Moi j'avoue que ça me dérange un peu, mais vous savez, ça dépend dans quelle situation ils sont trouvés aussi, hein.
ففيك برغم العدا سنسد ونعصف بالظلم والظالم سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصب قهرنا الأعادي في كل ود فلم تجدهم طاهرات عود ولا طنك ينجيهم في البود فباءوا بأشلائهم خاسئين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين وقائعنا قد روت للورى بأن صمدناك أسد الشرى فأوراس يشهد يوم الوغى بأن جهزنا على المعتدي سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصب سلوا جبل الجرف عن جيشنا يخبركم عن قوى جأشنا ويعلمكم عن مدى بطشنا بجيش الزعانفة الآثم سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك ذهبنا على الغاصبين بجرجرة الضخم خذنا الغمار وفي الأبيض الفخم منا الفقر وفي كل فج حمينا الضمار فنحن الأبات بنو الفاتحين سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك ذهبنا على الغاصبين.
Moi, j'avais pas de copains, adultes algériens, donc j'ai jamais été confronté à ça. Mais si j'y avais été confronté, je pense pas, donc j'en serais pas venu là. Non, j'en suis sûr.
Du coup, vous êtes rentré en 61, il restait un an de guerre encore.
Il restait un an de guerre. Alors, moi, j'ai vécu l'affaire des généraux de France. Hein. Quand j'ai su que les appelés du contingent avaient mis un frein dans certaines unités, ils avaient même arrêté ils avaient mis aux arrêts les chefs d'unité pour pas qu'ils se rallient aux généraux. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, et les gens ne savent pas ça, que les appelés du contingent ont sauvé la République, un petit peu, ou tout au moins ils ont contribué à le faire. Moi, j'ai un copain qui le raconte, il dit qu'il était à l'approvisionnement en essence des unités. Dans les unités qui roulaient pour les généraux, il ne les approvisionnait pas. Ils restaient tranquillement au casernement, ils n'y allaient pas. Et donc, ils s'en sont très vite rendus compte. Hein. Ça a duré combien de jours, l'insurrection des généraux ? Ça a duré 2-3 jours. Après, ils sont envolés dans la nature. Et puis l'OAS est venu prendre leur lait. Quoi.
Et votre retour, alors, psychologiquement, vous êtes comment ? Vous êtes tout de suite bien et vous reprenez le boulot ?
Ah, moi, je suis tout de suite bien parce que je voulais me marier d'abord. Hein. Donc, je suis tout de suite bien. Je vais au boulot content, je pense un peu à ce que je viens de vivre, hein, mais j'en parle pas trop. J'ai essayé d'en parler une fois, c'était un an après, j'ai essayé d'en parler avec un responsable syndical, mais ça les intéressait pas trop. Ils pensaient qu'à avoir fait, avoir empêché un peu, s'être préparé à éviter une subversion militaire, ils l'avaient réussi, donc ils pensaient pas que ils voulaient plus en parler, quoi. Et comme nous, vous savez, c'était pas tellement glorieux, hein, d'avoir fait ce qu'on a fait. Heureusement qu'on a été obligé de le faire, parce qu'on aurait été volontaire, ça aurait été misérable de faire ça. On y a été parce qu'on était obligé d'y aller. Hein. C'était pas. Et puis je vous dis, avec l'éducation qu'on avait. Au début, ne pas faire son service militaire, mais c'était un péché. Hein,
et en Algérie, la religion, la messe, tout ça, vous
non.
Avez, non, rien.
Non, si.
Ils ont
si, un peu, deux fois par an. Deux fois par an. Mais vous savez, la conscience, elle vous réveille, hein, quand même, après. Après, hein. Après.
Après.
Ah oui, bon, après, il y a des choses qui m'ont empêché de dormir. Hein.
Après le retour.
Ah oui. Il n'y a pas longtemps, hein. Il y a 2-3 ans. Hein. Avant que je fasse ce film, là, je me posais beaucoup de questions. Le film, il m'a...
Oui, j'allais vous dire, vous
m'a bien aidé. Hein.
Vous avez commencé à en parler quand, tout de suite?
Non, j'en ai jamais parlé.
Même avec votre épouse?
Oh non. Défaite de guerre, non. Défaite du combat, non. Non, non, jamais.
Les enfants n'ont jamais entendu parler de quoi que ce soit, ils ont découvert
jamais,
sur
jamais.
Le film.
Jamais. Pour moi, d'une part, c'était pas glorieux, et puis on nous a fait faire la sale besogne. Hein. Alors il y a un peu... C'est pas de la honte. Moi, j'ai pas honte, hein, surtout pas maintenant, mais je suis pas glorieux non plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, fallait vivre ça, puis...
Malgré les grands yeux du néant, c'est pour mieux te manger, enfant, et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous guérisse, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut paradis, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous les morts en goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps et par d'autres reprises en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré qu'on soit du même voyage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nous, sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui faiblit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort parfois un peu remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule, pour l'éternité, malgré qu'on la sache ratée, faut vivre.
Ça a été un drame, hein, quand même, hein, pour les appeler. Hein. On parle du drame du peuple algérien, en premier. Le drame des Harkis, en deuxième, le drame des Pieds Noirs, en troisième, et puis il y a le drame des Appelés. Hein. Les Appelés aussi, ils ont vécu un drame. Hein. Parce qu'on leur a fait faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Et c'est... Ça... Vous ne vous apercevez pas que vous faites des choses que vous ne voulez pas faire. Vous le faites sans même savoir que c'est mal, à la limite. Parce que vous êtes pris dans cet engrenage de... On vous dit, on part en opération, vous, vous pouvez pas dire, j'y vais pas, moi, ça n'existe pas, ça. Parce que moi, je vais vous dire, en Kabylie, quand j'étais en Kabylie, j'ai jamais vu un Européen, à part les militaires. J'ai jamais vu un colon. C'était pas un territoire, la montagne, qui les intéressait. Il y avait pas de chamblais, il y avait pas d'orange, il y avait pas de culture, hein. Il y avait que des gens qui vivaient chichement de leur, et les faits là-bas, c'était réfugiés là, parce que c'était plus facile pour eux de vivre là, ils étaient plus en sécurité. Moi, je me rappelle quand on est arrivé, je vous dis, il y avait des endroits où ils étaient parfaitement organisés, hein. Ils se baladaient à 150. Est parfaitement armé, peut-être moins bien que vraiment sur la fin, mais quand même, hein, ils avaient des FM qui nous avaient piqué, hein, parce que il y a eu une embuscade deux ans avant que j'arrive, et j'ai connu l'histoire après sur internet, là, un gars qui raconte son histoire, l'embuscade du 31 août 1957 en bas du village d'Aït Firach où on était. Au carrefour des généraux, il y a eu une embuscade du convoi qui rentrait à la compagnie. C'était des libérables. Ils étaient une vingtaine de libérables. Et ils sont tombés en embuscade. Là, il y en a cinq qui sont pas retournés chez eux, jamais. Et il y en a un, notamment, caporal chef Bonhomme, qui a été porté disparu et qu'on n'a jamais revu. C'est une affaire spécifique au 27. C'était à cette époque-là, c'était pas la première compagnie. C'est pour ça que je pense qu'après cette embuscade, la cinquième compagnie, je crois que c'était, elle a été changée. Ils ont dû tout changer. Ils ont dû mettre les gradés de la première compagnie. Et quand je suis arrivé, c'était la première compagnie. C'était des libérables qui revenaient du PC du bataillon où ils avaient passé la visite de. Justement, la visite de libération. Ils sont tombés en embuscade à 1,5 km du poste. Les Fels, ils sont montés à l'assaut des camions. Hein. Ils ont piqué les radios. Et ils ont piqué un FM. Hein. C'est quand même. Alors, quand vous pointez dans cette unité. On ne savait pas, on n'a jamais su. Moi, je ne l'ai jamais su quand j'étais là-bas qu'il s'était passé ça. Je l'ai su après. Et après, j'ai réfléchi, j'ai fait des recoupages. Et quand on arrive sur la crête de P6, qu'on voit la main de la Fatma, qu'on voit le poste de la première compagnie, qu'on voit le village d'Aït Firach le haut, qu'on voit le village d'Aït Firach le bas, alors le village d'Aït Firach le bas, les maisons n'ont plus de toit. On l'a complètement rasé par du pilonnage qui venait de la compagnie avec les mortiers. Pourquoi ? Parce que les Fels, ils étaient là quand ça s'est passé, et le village de Takoucht qui était sur la droite, il en a pris autant, il a été pilonné. Et cette zone-là a été déclarée interdite. Alors à partir de ce moment-là, ou avant, ou après, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les villages du Beneziki, c'était interdit d'y aller. Je peux vous dire, quand vous traversez ce village-là pour aller vous porter en embuscade au fond de l'ouette de l'autre côté, que vous passez dans ce village mort, que vous savez que peut-être les Fels y sont, et qu'il faut faire la pointe pour descendre dans le trou, je peux vous dire que on n'a jamais accroché, mais vous avez aussi peur que si vous accrochez, autant. Et puis alors on descendait là en bas après dans ce fameux gruyère là où je me rappelle la première nuit qu'on a passé en bas. Hein. Dans la journée, il y avait une équipe de la section qui avait tué 3-4 gars et ils les avaient laissés sur place dans le Oued. Donc ils étaient dans l'eau, hein. Je ne sais pas si les villageois ont été les chercher après. Et donc ces 4 gars. Baignait dans la flotte. Nous, on était en aval, 200 mètres plus bas. Et le matin, quand on a décroché, on a été prendre de l'eau dans la rivière. Et puis, on a mis les cachettes hein, qu'on avait dans les boîtes de ration pour purifier l'eau. Et puis, on a bu. Et puis, quand les gosses se sont rendus compte, quand il y en a un qui a dit hey, « au-dessus, c'est ce qu'il y a dans l'eau ?» Voilà.
Madame Mouchard, Kabylie, où est-elle qu'elle irait la rivière ? Les blés sont jaunes et les épis qui se recouvrent de poussière chantent le chant des partisans près d'un chat en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant. Où est l'Al-Kabir coule sans bruit. Mais un matin que le grillon chantait son chant sonore et doux, on vit au loin à l'horizon et sur les plateaux de partout l'âpre lumière des mitrailleuses qui déchirait la plaine grise en longue saccade nerveuse tout près d'un mouchard insoumis. Une fille nue au sein de lait attache leurs poignets graciles. Sur le ventre bien rasé, on a branché des crocodiles. Meurent les filles aux grands yeux noirs, mais de leurs dents toujours serrées, aucune plainte, aucun espoir ne sont sortis de leurs baisers. Ils sont partis et les baignoires sont là devenus. Plus jamais ne pourront s'asseoir à l'intérieur tous les Kabyles. Ici est mort avec ton père, ta sœur qui n'avait que 12 ans. Dis la maman, c'était la guerre. Ils étaient 10, nous étions 100. Près d'un mouchard en Kabylie, où est l'Al-Kabir et la rivière. Les blés sont rouges et les épis qui se recouvrent de poussière chantent l'espoir survivant près d'un mouchard en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant, où est l'Al-Kabir coule sans
Je vous propose de revenir un moment sur l'histoire singulière de ce Paul Bonhomme, histoire au sujet de laquelle on en sait un peu plus aujourd'hui, même si tout n'est pas éclairci. Paul Bonhomme était né le 17 mai 1935, il a disparu donc le 30 août 1957 et non le 31. Suite à son arrestation par la LN sur le lieu du combat, au lieu dit Carrefour des Généraux, à l'entrée du village de Haït Ferrach, près de Bouzguen. Le bilan de ce combat a été du côté des militaires français de 5 morts, 11 blessés, 1 disparu, 9 armes prises, dont un FM et 2 radios. Paul Bonhomme appartenait à la 4e compagnie et non à la 5e. Une fois la constatation de la disparition du caporal-chef Bonhomme, les militaires ont lancé sans succès de multiples patrouilles à sa recherche, recherche qui se poursuivit le lendemain, toujours sans succès. Il se trouve qu'une lettre arriva à ses parents, peut-être écrite sous la dictée de ses geôliers. En substance, il y est dit « Cher papa, il vous sera surprenant de lire une lettre que je vous écris du maquis. Ne vous inquiétez pas, je suis sain et sauf d'abord. Je voudrais bien vous raconter, comme je devine vos désirs et vos pensées, comment s'est passée ma mésaventure. De retour d'une opération, notre section fut attaquée en cours de route, précisément avant d'arriver au camp, par un fort contingent de l'armée de libération nationale algérienne. Tapis à l'intérieur de mon camion, j'assistais à la fusillade, impuissant, interdit. Soudain, les hommes de l'armée algérienne firent assaut, et dans un laps de temps très court, je me retrouvai prisonnier. Les maquisards m'intiment l'ordre de les suivre. J'étais étonné parce que je pensais être abattu sur le champ. Nos officiers nous l'avaient maintes fois affirmé. Eh bien, c'est faux. Je ne fus pas abattu. Au contraire, les hommes de l'armée algérienne m'invitèrent, dans un français correct, à les accompagner pour être présentés à leur chef. Fin de l'extrait de cette lettre. Dans un premier temps, l'armée française considéra que Paul Bonhomme était un déserteur et lança contre lui un mandat d'arrêt international à ce titre. Drôle de manière pour l'armée d'apporter son soutien à ses soldats prisonniers de l'ennemi. Personne ne revit jamais Paul Bonhomme, et il a fallu attendre le 14 juin 2002 pour que la famille reçoive un courrier des militaires les informant que, par une décision du 10 décembre 1964, Paul Bonhomme était mort pour la France. Donc, 45 ans après. Tel est l'épilogue des faits concernant la disparition de ce jeune Français, déshonoré et oublié par les autorités militaires. À l'époque de sa disparition, diverses versions ont circulé et circulent toujours sur le sort de Paul Bonhomme. Il aurait séjourné à Aït Salah, puis été évacué en Tunisie, dont il n'est jamais revenu. Il avait été retrouvé au cours d'une opération porteur d'un poste radio, information qui se révélera fausse. Concernant ce poste, il en aurait fourni le code, ce qui pourrait être, si c'est le cas, en relation avec le statut de déserteur qui lui a été octroyé alors. Il aurait été tué le jour de son arrestation par son geôlier, au cours de son transfert vers la Tunisie, parce qu'il tentait de se faire repérer par les avions qui tournoyaient à sa recherche. Selon le FLN, le caporal-chef Paul Bonhomme a rejoint les 13 prisonniers du PC de la Wilaya, dont le lieutenant Dubosc, détenu en secret à la forêt de Lac Fadou par Amirouche, dans la perspective de les échanger avec des prisonniers de la LN. Ceci n'explique pas alors pourquoi on ne l'a jamais retrouvé ni vivant ni mort. À noter aussi qu'il semble que la répression, minimisée par l'armée, fut terrible contre le village et les habitants de Aït Ferrach, tout proche de l'attaque. Voilà ce qu'on peut dire en résumé aujourd'hui d'une affaire qui n'est toujours pas vraiment éclaircie.
Près de Mouchar, en Kabylie, Ouédelkébir et la rivière, les blissons jaunes et les épis qui se recouvrent de poussière, chante le pain des partisans, près de Mouchar, en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant, Ouédelkébir coule sans bruit.
Donc, plus de 40 ans sans en parler, pratiquement.
Ah oui, 35-40 ans sans en parler, jusqu'à ce que Goubier se manifeste.
Mais sans en parler, avec une souffrance de ne pas en parler, ou simplement vous aviez remis ça?
Ben, quelquefois, non, une souffrance de ne pas en parler, je n'éprouvais pas tellement le besoin d'en parler. Mais je pense que le fait d'en avoir parlé, ça m'a bien dégagé. Hein. Ça a été ma... Comment on dit, ça a été ma...
Thérapie.
Voilà, ça a été ma thérapie. Ça a été ma thérapie d'en parler. Parce que après, il y a des choses qui sont difficiles à dire, difficiles à raconter. Et vous avez toujours des choses à vous reprocher. La guerre vous fait faire des choses que vous ne feriez pas s'il n'y avait pas la guerre. Hein. Et donc...
Et des cauchemars, enfin vous avez...
Non, j'irai pas au cauchemar. Non, mais d'y avoir pensé fortement, et que ça m'ait empêché de dormir, oui. Mmh. Empêché de m'endormir, oui. Oui, oui.
Ça vous a pas gâché la vie, vous, quoi. Vous avez su rebondir.
Non, je peux pas dire que ça m'ait gâché la vie. Mais quand même, je me souviens, il y a 5 ans, hein, que je m'étais mis un jour à penser à ça, et bon, ça m'avait posé problème d'une chose que j'avais faite et qui me tourmentait, quoi. Mais bon, après, donc on a fait ce film, donc ça m'a un peu. Ça a été bénéfique.
Et encore, vous n'avez pas été confronté, enfin, je suis un peu provocateur en disant ça, à des choses très dures, quoi. À part votre angoisse permanente, j'imagine, de ces trucs que vous deviez avoir chaque fois que vous sortiez.
Il y a des choses, quand même, dont on se souvient. Moi, je me souviens. J'ai pas vu les hommes, j'ai pas vu les deux hommes qui s'étaient fait tuer, c'était des gars de chez nous, hein, c'était des fusiliers marins, ils ont fait un peu les malins, on avait accroché dans une espèce d'endroit qui était touffu, alors vraiment touffu, et nous on nous a fait aller là, on nous a demandé d'aller là où ça avait été, hein, et là j'ai eu la trouille de ma vie, parce que ça peut être tous les côtés. Et on ne savait pas trop sur qui tirait sur qui. Alors bon, c'est vrai que ça fait partie des frousses que j'ai eues. Et où j'étais vraiment, j'avais pas le moral vraiment, c'est que il y avait donc une section de fusiliers marins qui avait participé à cet accrochage. Et quand on a décroché, à un moment, on nous a donné l'ordre de décrocher, il y avait les camions des fusiliers marins qui étaient sur la piste. On avait vaguement entendu dire qu'il y avait eu deux morts. Et les quatre pieds dépassaient du camion. Les quatre brodequins dépassaient du camion. Alors là. Puis après, vous entendez ce qui se passe, ce qui s'est dit. Il paraît que le Pacha, c'était le patron dans les fusiliers marins. Il avait pris son couteau, ils avaient chopé un mec, il lui avait coupé la tête, paraît-il. Mais je ne l'ai pas vu, hein, je ne peux pas le dire. Mais bon. Et c'est sûrement des choses qui sont arrivées, hein. C'est des atrocités de la guerre.
Hein. Finalement, cette peur permanente, parce que ça marque le psychisme, ça ne vous a pas trop traumatisé pour la suite de votre jeunesse, quoi.
Tout de suite au début, quand je me baladais en ville. Il y a des moments où j'avais peur, quoi. Les bagnoles, s'il y avait un pot d'échappement qui faisait du bruit, un truc comme ça, quoi, ça me faisait sursauter, quoi, parce que j'étais aux aguets, j'étais... Quand vous faites la pointe, que vous traînez la section derrière vous, c'est il y a des moments où vous êtes presque prêt à tirer au bruit, hein, parce que vous devinez... Avec l'oreille, vous devinez beaucoup de choses, quoi. C'est vrai qu'on est toujours aux aguets, quoi. Alors après, quand vous revenez à la vie, des bruits, on est en permanence. Et quelquefois, ça me faisait sursauter. Mais après, non. Ah, mais j'ai pensé, j'avais un truc qui m'a tourlupiné longtemps. C'est souvent, ça venait par moment, ça. Mais ça ne m'a pas jamais trop gâché la vie.
Les autres militaires avec qui vous étiez, vous les revoyez? Vous avez gardé des
contacts? À l'armée, non. De mon passage... De ma section, deux, un au téléphone et un en Haute-Loire, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Ah, quand on s'est retrouvé, ça a été.
Ah oui?
Ah oui, oui. Surtout qu'il n'avait pas changé, moi non plus. Il m'a dit, ah, t'as pas changé. Et ce gars-là, c'est le gars qui m'avait fait faire mes premières armes, en quelque sorte, quand je suis arrivé. C'était mon chef d'équipe. Quand je suis arrivé à la section, il avait quatre bonhommes sur ses ordres, quoi. C'était l'équipe à De Vidal. Hein. Et après, ça a été l'équipe à Prades. C'est moi qui l'ai remplacé. Mmh. Et bon, il fallait non plus dans la section, vous ne pouviez pas. Vous pouvez, si on vous nomme caporal chef, vous ne pouvez pas dire non. Hein, sinon, vous allez être rebelle et puis vous.
Oh, il y en a qui disent non.
Mais... moi, j'ai pas dit non. N'importe comment, ça m'en a pas fait faire plus ni moins. Hein, pas. Non, moi, j'ai pas. Non, j'ai pas refusé. Hein, au contraire, mais en arrivant à l'armée, on vous demande si vous voulez suivre le peloton, comme on dit, le peloton de sergent. Honnêtement, moi, je ne sais pas si au niveau des études, j'ai rentré dans leurs critères pour faire un sous-officier, mais j'ai pas pu l'avoir parce qu'il y en avait trop qui voulaient le faire. Alors donc j'ai suivi le petit peloton, quoi, le truc du CR1 qu'ils appelaient, mais j'ai pas fait le CR2. Donc j'ai eu pour être caporal, et puis après avec l'ancienneté caporal-chef. Hein. Mmh. Bon, avec caporal-chef, on avait un petit pécule, quoi, ça rangeait un peu les épineurs.
Et au niveau des associations, vous êtes investi dans la FNACA, dans la RAC, dans...
Je me suis investi dans la FNACA, je ne me suis pas investi dans la FNACA, j'ai pris ma carte.
Et votre carte.
J'ai pris ma carte. Mais je ne l'ai pas prise il y a longtemps. Hein. Parce que je me souviens, pour avoir la FNACA, elle disait, pour avoir la carte du combattant, il faut passer par nous, du nord, paraît-il. Enfin, il y en a qui disaient ça. Mais c'est pas vrai, parce que moi, je me souviens, c'était en quelle année que j'ai fait avoir la carte du combattant à papa. C'était quand il est né en 1913, 65 ans, donc ça fait 78. C'est en 78. J'ai fait faire la carte du combattant de mon beau-père. Et j'ai demandé au gars à qui je rendais les démarches pour mon beau-père, je lui ai dit, mais et les anciens d'Algérie, ils y ont le droit? Il me dit, bien sûr. Il dit, si vous étiez dans une unité combattante, il n'y a aucun problème. Alors je lui dis au gars, il me dit, il faut que l'Assemblée nationale fasse la liste des unités combattantes. Et je lui dis, moi j'étais au 27e BCA. Il me dit, oui, au 27e BCA, malheureux. Vous allez y être bientôt, là, j'ai vu passer un papier, là. Il n'y a aucun problème, là, vous faites la demande, vous l'aurez. Et donc, j'ai fait ma demande et j'ai eu ma carte du combattant. Tout de suite, quoi. J'étais pas adhérent à la FNACA à l'époque. Mais c'est vrai que la FNACA donne des conseils pour
Donc la carte du combattant, ça vous donne essentiellement le droit à la retraite, quoi.
Ben, il y a la retraite du combattant. Hein.
C'est tout, ou il y a d'autres...
Ça fait maintenant, ça fait 630 euros par an, hein. Versé en deux fois. Et puis donc, sur la ville de Saint-Étienne, là, ils essayent de mettre, je sais pas s'ils vont arriver... On a deux cartes pour les transports en commun dans l'année. On a deux tickets de 100 unités.
Rien ne pourra payer les larmes des mères. Rien ne remplacera leurs espoirs déchirés. Leur bonheur n'est plus rien qu'un vieux rêve éphémère. Elles auront demain tant de fils à pleurer. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien. Car l'amour est lui seul survit parmi les flammes, et je veux comme vous voir survivre le mien.
Une fois, ça m'est arrivé, moi, de très loin, hein, à 200 mètres, vraiment viser un gars, mais bon, et ben, vous finissez par tirer parce que vous êtes là pour ça. Hein, et vous êtes entraîné à ça, hein, mais bon, après vous priez le bon Dieu de ne pas l'avoir touché, hein, c'est tout, hein. Et puis finalement, là, la fois où ça nous est arrivé, là, ils sont descendus dans l'Oued, l'équipe qui était devant nous, ils en ont tué deux ou trois, je ne me rappelle plus. Mais c'était des gars qui étaient souvent en blouse grise, c'était souvent des agents de liaison ou des collecteurs de fonds, hein. Mais vous savez, ils avaient des couilles, hein. Je peux vous dire que moi, je trouve qu'ils avaient du courage. Hein.
Parce que
Pourquoi ils avaient du courage? Eh bien, parce qu'ils faisaient ça. Et qu'ils risquaient encore plus que nous. Parce qu'on était, finalement, on était plus nombreux, mieux armés. Eux, la plupart du temps, ils étaient en fusil de chasse. Hein. Ils étaient en fusil de chasse. Ils avaient du courage. Et pourquoi ils avaient du courage? Eh bien, c'était tout simplement pour gagner leur liberté. C'était pour rien d'autre.
Oui. Pour certains, ils n'avaient peut-être pas le choix, non?
Ah ben ça, oui, j'ai pas fait trop d'analyse là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on les forçait peut-être aussi. Hein. On les forçait. Mais, vous savez, si on regarde le fond des choses, le FLN, pourquoi il a eu tant d'adhésions? Il en a quand même eu des adhésions. Et puis, vous étiez avec eux ou vous étiez contre eux. Hein, avec le FLN, il n'y avait pas de détails. Mais quand même, c'est quand même les Européens qui ont fait que le FLN a grandi et a poussé si vite. À cause de l'intransigeance qu'ils avaient, de ne pas vouloir leur accorder ce qu'on doit accorder aux hommes normalement, hein, de ne pas vouloir partager. Résultat, eh ben on est parti. Alors que moi, je l'ai toujours dit, ça c'est ce que je dis, et j'en parle un peu. Moi, je me dis que si entre les deux guerres, on avait voulu faire l'Algérie algérienne, on aurait pu la faire avec toutes ses composantes. On aurait pu la faire avec les pieds noirs, on aurait pu la faire avec les musulmans, on aurait pu la faire avec tous les gens qui peuplaient l'Algérie, mais à condition de mettre tout le monde une voix, une voix.
Il n'en était pas hein? question.
Oui, mais c'était esprit-là. Et là, on y serait encore. Enfin, on y serait encore, ça serait toujours l'Algérie, hein? Mais ça serait un pays extrêmement riche.
Quand vous dites entre les deux guerres, vous pensez 14-18 et 39-45?
Ouais, moi, je pense entre la guerre de... Je pense dans les années 30, hein, dans les années 30.
Mais si vous lisez l'histoire de l'Algérie, vous verrez qu'il y avait déjà eu beaucoup de mal de fer en 1930.
Ah oui, mais le mal...
On avait déjà pris des millions d'hectares de
terres.
Ah
oui, mais ça a pris, ils ont pris les terrains, ok, mais après, ils ont pris les vies. Parce que prendre les terrains, à la limite, c'est rien, hein. Mais prendre les vies, regardez, en 1945, le 8 mai 1945, d'ailleurs, le massacre de Sétif, après ça, c'était irrémédiable. Les Algériens ne pouvaient pas accepter la France, c'était pas possible. C'était plus possible. Donc, à partir de ce moment-là, c'était perdu. Et moi, je pense que si on avait pu faire quelque chose d'honnête, il fallait le faire bien avant. Parce que c'est vrai qu'au départ, la France a amené quelque chose en Algérie, mais il pouvait amener beaucoup plus, et dans la paix. Et à ce moment-là, les Algériens l'auraient accepté, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de se mettre avec le FLN.
Moi, je ne suis pas sûr de ça. Si vous lisez l'histoire politique de l'Algérie, les mouvements d'indépendance... qui datent de 1900, 1920 et tout, ah, ça me déclenche.
Hein. Oui, mais ils étaient moins durs. Et oui. C'est ce qui me fait dire qu'ils auraient accepté. Vous rendez compte, à cette époque-là, si on leur avait dit, bon, eh ben, écoutez, maintenant vous êtes comme les autres. Vous avez droit au même salaire, aux mêmes avantages, aux mêmes allocations, aux mêmes avantages sociaux, hein, et vous n'allez pas être privé de vos terres, c'était les vôtres. Vous allez les exploiter. Attendez, finalement, les gens qui... Les gens qui apportaient cette politique en Algérie, là, ça travaillait en sous-main, on ne les voyait pas, ces types-là.
Au mois d'avril, j'ai reçu une lettre et sur le côté, on voyait dessiner un drapeau. Au mois d'avril, j'ai reçu une lettre. Et sur le côté, on voyait dessiner un drapeau. C'est un papier pour partir à la guerre en Algérie pour le gouvernement. C'est un papier pour partir à la guerre en Algérie pour le gouvernement. Adieu ma mère et adieu ma compagne, je vous dis adieu mon père et adieu mes amis. Adieu ma mère et adieu ma compagne, je vous dis adieu mon père et adieu mes amis. Il faut partir en camion militaire en Algérie pour le gouvernement. Il faut partir en camion militaire en Algérie pour le gouvernement. Dans le désert, sous le soleil qui brûle, je tiens dans mes bras mon fusil et je pense au comptant. Dans le désert, sous le soleil qui brûle, je tiens dans mes bras mon fusil et je pense au comptant. Petite pluie, petit matin de brume, dans la vallée, au début du printemps.
petite brume, petit matin de brume, dans la vallée, au début du printemps.
Ainsi se termine cette troisième émission d'une série de trois consacrée à Jean-Baptiste Prade. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Faut vivre, la chanson de Marcel Mouloudji qu'il interprétait sur une musique de Chris Carroll. Puis c'était Près d'un mouchat, une chanson de M.J. Le Prince sur une musique de Philippe Gérard. Un document extrait d'un spectacle public Un étendard des étendues au Théâtre de l'Iris le 26 mai 2003. Puis c'est Charles Aznavour qui, sur sa musique et sur les paroles de Bernard Dimet, interprétait la version 3 de L'amour et la guerre. Et enfin, la chanson Le soldat d'Algérie par Edwin Delahaye et Favennec, trio EDF, sur des paroles de Guilou de La Haye et sur un air traditionnel. Nous remercions chaleureusement Jean-Baptiste Prade et son épouse d'avoir bien voulu accepter de nous accorder cet entretien pour Radio Canu, l'émission Vendémiaire. Bonsoir. Thank you.